les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Sylvie Barnet, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons de Noël, bien sûr, puisque nous allons fêter Noël. Cette fête de Noël, je suppose qu'elle a toujours existé dans le christianisme.
Eh bien, curieusement, elle est complètement ignorée des chrétiens des trois premiers siècles.
Ah bon ?
En effet, Noël, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la naissance du Christ, la nativité, comme on dit également. Et les chrétiens ne fêtent pas Noël avant le IVe siècle, ne s'intéressent pas véritablement à la naissance du Christ avant le IVe siècle. La fête chrétienne par excellence, c'est Pâques, c'est la résurrection, c'est la lumière de la résurrection.
Donc, les premiers, tout premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël ?
Non. Mais progressivement, ils focalisent leur regard sur la manifestation du Christ. Alors, les tout premiers récits que l'on a, c'est aux environs de 243, un texte attribué au pseudo-Cyprien fixe la nativité du Christ le 28 mars.
Ah bon ?
Le 28 mars, pour une raison simple, c'est que à cette époque, on commence à relire l'Ancien Testament en fonction, le Nouveau Testament en fonction de l'Ancien Testament. Or, le 28 mars tombe 4 jours après l'équinoxe du printemps, qui est le 25 mars. Or, comme on dit dans la Bible que Dieu a créé le monde en 7 jours et que le 4e jour, il a séparé la lumière des ténèbres, eh bien, on commence à comparer le Christ au soleil. Et comme on compare le Christ au soleil, et à ce moment-là, eh bien, 25 plus 4, ça fait 28.
Mais alors là, donc on a à un moment pensé que Noël était au 28 mars. Comment c'est revenu au 25 décembre ?
Alors, pour une raison très simple, c'est qu'à Rome, dans les années 350, donc milieu du 4e siècle, on décide de fêter la naissance du Sauveur. Au milieu du 4e siècle, on décide d'introduire et de fixer la date de la naissance du Christ, le 25 décembre. Pour une raison simple, c'est que dans l'Empire romain, à cette époque-là, on donnait des fêtes en l'honneur du dieu Mitra, qui est un dieu solaire. Il y avait un culte solaire qui lui était rendu. Et donc, Rome décide de choisir ce jour de manière à ce que, eh bien, les chrétiens fêtent le Christ comme la lumière. Et on compare même le dieu solaire au Christ pour montrer que celui qui a vaincu, qui est porteur de la lumière, qui est le Christ des nations, eh bien, c'est le Christ. Et puis, l'Orient est passé par là, puisque entre-temps, en Orient, au IIIe siècle, on avait l'habitude de célébrer l'Épiphanie qui a été fixée le 6 janvier, exactement pour les mêmes raisons, à savoir qu'il y avait des joutes théologiques entre païens et chrétiens. Or, le 6 janvier, c'était un jour traditionnellement attribué et vénéré à la déesse Corée, qui a engendré virginalement Éon, et on comparait Marie et Corée. Et donc, on a fixé la fête de la manifestation du Christ le 6 janvier, précisément pour éliminer les traditions païennes.
Mais les traditions autour de Noël, il en reste quand même beaucoup. Alors, il y a des traditions qu'on suppose tout de même héritées du paganisme, le sapin par exemple, non ?
Absolument. La première mention que l'on ait d'un sapin décoré, c'est 1494. Nous sommes en Alsace et il y a un prêtre qui fait un sermon interdisant aux chrétiens de suspendre des branches de sapin décoré dans leur maison en disant qu'il s'agit là de pure superstition. Alors, très vite, ça évolue dans un autre sens, puisque en Alsace, à la fin du XVe siècle, l'habitude se prend de mettre un sapin au centre du village et de le décorer de pommes et d'hosties.
Ah oui, donc la décoration, ça fait aussi partie des rites de Noël, en fait.
Alors, ça fait partie des rites de Noël d'une manière totalement symbolique, puisqu'il s'agit, sur un sapin, de condenser toute la vie du Christ, de sa naissance jusqu'à la résurrection, puisque Noël est une fête liturgique, et il s'agit de poser sur un symbole regardé par tous, eh bien, toute l'évolution de la vie du Christ promise aux chrétiens. Donc, on part de la naissance du Sauveur, qui va être signifié par la crèche au pied du sapin. Mmh. Et puis surtout, sur le sapin lui-même, on met l'hostie, ce qui permet de comparer le sapin qui est vert, qui ne perd donc jamais ses feuilles, qui est une plante qui verdit toujours, qui est symbole d'immortalité. Et bien sur ce sapin, on va mettre l'hostie pour montrer que le Christ va passer par la mort, par la croix. Hein, bois du sapin, bois de la croix. Le Christ passe par la croix pour sauver l'ensemble du peuple chrétien. Et puis il y a aussi la pomme. Et là, il faut se souvenir du jeu de mots latin pomum, le fruit, hein, qui va donner la pomme en français, qui est bien entendu le fruit de l'arbre du paradis, dont qu'Ève a croqué.
Absolument. Mais il y a aussi beaucoup justement de traditions culinaires qui sont attachées, ou gastronomiques qui sont attachées à Noël. La bûche, par exemple, est-ce que c'est...
Alors, la bûche...
C'est pas vraiment chrétien, non ?
Non, c'est pas vraiment chrétien. Alors, la bûche, elle se situe plutôt du côté des superstitions, puisqu'il s'agit de mettre dans la cheminée un symbole qui va promettre des richesses pour toute l'année. Mais là aussi, vous trouvez d'autres traditions à côté qui sont, elles, directement liées à la tradition chrétienne. Par exemple, les 13 desserts que l'on déguste en Provence, eh bien, les 13 desserts, selon la tradition fixée à peu près au début du XVIe siècle, la tradition est la suivante. On raconte que 13 desserts ont été offerts au Christ et aux 12 apôtres. Donc, sur la table, on dispose également 3 nappes pour évoquer la Trinité. Et puis, on met également des branches dans un verre d'eau, des branches mortes qui sont censées fleurir la nuit de Noël. Tout cela en souvenir du fait que les récits apocryphes, qui sont les évangiles écrits à partir du IIe siècle, racontent que la nuit de la naissance de Noël, les arbres se sont mis à fleurir miraculeusement. Ce qui est une manière d'ailleurs très jolie de raconter l'incarnation du Christ, qui est le Dieu homme. Alors comment on la raconte ? Au moyen d'une jolie histoire qui parle de la jointure des contraires. Le Dieu homme, c'est un Dieu qui rencontre l'homme et l'homme qui rencontre Dieu dans la personne du Christ. Et bien de la même manière, lorsque la branche va fleurir, elle va donner une rose. Et là aussi, il y a une rencontre entre l'impossible et le possible.
Sylvie Barnet, il n'y aurait pas de Noël sans Père Noël. Alors, le Père Noël, quelle est son histoire ?
Alors, le Père Noël, c'est une longue histoire et qui nous ramène à Saint Nicolas qu'on fête traditionnellement le 6 décembre, Santa Claus, dans les pays germaniques. Alors, Saint Nicolas, il est surtout vénéré à partir de la fin du Moyen-Âge. Bon, il y a plusieurs Saint Nicolas, le plus connu étant Saint Nicolas de Myre, qui a vécu au 6e siècle. Et Saint Nicolas est surtout connu pour la légende des 3 enfants et du saloir. Alors, la voici l'histoire, elle est savoureuse. Saint Nicolas rentre un jour chez un boucher qui vient de tuer 3 enfants et qu'il les a mis dans son saloir. Et il ne veut rien d'autre à manger que ce qu'il y a dans le saloir. Et à ce moment-là, le boucher lui donne à manger, le boucher ogre, hein, lui donne à manger les 3 enfants qu'il ressuscite. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, il devient progressivement le saint protecteur des enfants, celui auquel on s'adresse, celui auquel on voue les enfants, et puis progressivement celui qui va venir donner des récompenses aux enfants. Alors, on a de très jolies chansons. Au XVIIIe siècle, on raconte que Saint Nicolas va donner, écoutez bien le symbole, il est latent, des baguettes. Baguettes aux petits garçons et des bonbons pour les fillettes.
Ah, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui on pratique encore tous ces rites liés à Noël ? On voit qu'ils ne sont pas prêts d'être abandonnés, non ?
Non, parce qu'il y a un retour à la tradition. On le voit bien avec les marchés de Noël, où l'on vend tous ces décors de Noël, dont il faut se souvenir que la fabrication commence de manière industrielle à la fin du 19e siècle, qui est aussi l'époque où Santa Claus, Saint Nicolas, se transforme en Père Noël. Et il se transforme en Père Noël sous l'influence à la fois de son émigration en Amérique, où là, il est désigné comme le Père de Noël. Il porte d'ailleurs un habit bleu au départ et pas du tout un habit rouge. Cette image revient en force en France et sous la pression notamment des grands magasins, on lui donne un habit rouge et à ce moment-là, l'école laïque et républicaine commence à passer par là. Il devient le Père Noël et il y a toute une industrie du marché de Noël qui se met en place au début du XXe siècle.
Là, on est un peu loin de la religion, mais les chrétiens pratiquants pratiquent-ils encore des rites particuliers pour Noël ?
Tous les chrétiens se rendent à la messe de minuit. qui est une liturgie.
C'est une messe commune aux trois religions chrétiennes.
Oui, chrétiens, oui, protestants, catholiques et orthodoxes se rendent à la messe.
C'est donc une fête commune, en effet.
Oui, c'est une fête commune.
Merci Sylvie Barnet de nous avoir éclairé sur Noël et puis bon Noël.
Merci, à vous aussi.
Merci.